Washington.
Bonne et heureuse année 2024 à vous, chers auditeurs et auditrices de VOA Afrique. Dans quelques instants, une rétrospective 2023 présentée par Lionel Gahima. En attendant, un bulletin d'information. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a été réélu pour un second mandat avec 73,34% des voix, selon un score officiel annoncé dimanche à Kinshasa, après un scrutin qualifié de simulacre d'élection par l'opposition qui en demande l'annulation. Selon ces résultats de la commission électorale, qui devront être confirmés par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi est suivi de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, 18,8%, de Martin Fayulu, 5,33%, puis de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito, 1,12%. Selon la CENI, le taux de participation aux élections des 20 et 21 décembre a été de 43% des inscrits. Le président Tshisekedi promet un mandat de matérialisation de ses engagements. C'était devant des milliers de ses partisans venus célébrer sa victoire après l'annonce des résultats par la CENI.
En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs. Après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie, je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo.
Le président congolais Félix Tshisekedi après l'annonce de sa réélection. Pour sa part, Maître Hervé Diakhtiez, porte-parole du parti Ensemble pour la République, parle de résultats fantaisistes. Le parti de Moïse Katumbi n'entend pas contester les résultats en justice, mais va plutôt appeler à une mobilisation pacifique.
C'était sans surprise à partir du moment où M. Kadima, en toute violation de la loi, n'a fait qu'annoncer des résultats émanant de sa propre tête, qui ne sont pas venus de la compilation des résultats, alors que c'est une obligation légale au regard de l'article 71 de la loi électorale. Il n'a pas répondu aux questions sur les centres et bureaux de vote qui ont été effectivement ouverts, ni sur le nombre de machines à voter qui ont été déployées. Donc il n'y a aucune source de traçabilité des résultats fantaisistes qu'il donne. J'apprécie même la modestie du pourcentage. Au point où on en était, pourquoi seulement 73%? Pourquoi pas 100%? Pourquoi pas 200%? Comme le taux de participation dans certains centres de vote.
En réaction aux résultats en RDC, les États-Unis ont appelé dimanche à la résolution pacifique et transparente de tout différend électoral, tout en soulignant suivre le processus de près. L'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a été investi dimanche pour l'élection présidentielle de 2024 dans un lieu privé à huis clos après l'interdiction du meeting public prévu samedi, selon un responsable et des images de la télévision de son camp.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a achevé dimanche 10 ans de présence dans ce pays, durant lesquels elle a soutenu le processus de paix dans un pays en crise, où le régime militaire a finalement décidé de son départ, annoncé dans un communiqué publié dimanche le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Israël et la bande de Gaza sont entrés dans l'année 2024 sans pause dans les combats, l'armée israélienne poursuivant son pilonnage intensif du territoire palestinien et le Hamas tirant des tirs de roquettes sur Tel Aviv et le sud d'Israël au moment exact du Nouvel An. La guerre se poursuivra pendant de nombreux mois, a averti le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
«
Bonjour, chers auditeurs de VOA Afrique. Merci pour votre confiance. Lionel Gahima à la présentation de cette émission spéciale au cours de laquelle nous allons revenir sur des événements ayant marqué l'année 2023 dans quelques pays. Nous irons au Gabon, en RDC, au Cameroun, au Sénégal et nous terminerons ici aux États-Unis avec le bilan de la politique étrangère du président Joe Biden au cours de l'année qui s'achève. On commence par le Gabon. L'année 2023 s'achève avec la fin du règne cinquantenaire des Bongos à la tête du pays. Le 30 août reste à jamais gravé dans la mémoire des populations, une date synonyme de prise de pouvoir qui a renversé Ali Bongo Ondimba. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Claude Lenyongo se souvient du 30 août 2023. Alors que tout le pays était suspendu à l'annonce des résultats de la présidentielle, la jeune esthéticienne de 34 ans partage ce soir-là l'angoisse des milliers d'autres Gabonais impatients de connaître la vérité des urnes.
On attendait tranquillement les résultats. Après, on a été surpris, comme tout le monde, comme les gens qui ne le savaient pas, du fameux coup d'État. Au début, on était dans la panique, mais c'est après, lorsque les choses, on a vu que les choses se sont bien déroulées, il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas des casses, on s'est senti libéré.
C'est depuis là, le pays se porte bien, votre
avis ? À mon avis, ça va. Il y a beaucoup de choses à arranger, mais c'est pas d'un coup comme ça.
Dès le lendemain du triple scrutin, tant redouté par des milliers de Gabonais, dont Raphaël Obam, encore étudiant.
Cet événement, on l'attendait avec beaucoup d'impatience entre certitude et tristesse, je peux dire. Et là, nous avons été surpris parce que les élections ont été proclamées à 4 heures du matin. La plupart des Gabonais étaient dans le sommeil.
Quelques minutes après la déclaration du Centre Gabonais des élections, le pays va vivre une prise de pouvoir militaire en direct de la télévision nationale. Ce putsch marque la chute de la dynastie Bongo et provoque d'intenses scènes de liesse populaire à Libreville et dans presque toutes les villes du pays. Emma Nkoulou, professionnelle des assurances, revient sur ces événements.
Le paradoxe, c'est que pendant que ça devait être un événement national réjouissant, la proclamation d'une élection présidentielle, ça plutôt peut être pour nous un événement maquillé de peur, de crainte, et donc tout le monde pouvait être que chez lui en attendant que le matin on soit sur le fait accompli.
Donc 2023 s'achève pour vous sur une note de satisfaction ou sur une note d'incertitude?
Sentiment mitigé, hein, satisfaction, parce que bon, psychologiquement je romps avec un nom. Bon, mais tant que ce nom, apparemment, il est dans l'ombre, je suis également un peu déçu.
3 mois et demi plus tard, les langues se délient sur la nature du régime militaire qui a mis fin au long règne de la famille Bongo. Juriste, Christelle a désormais très envie de sortir de cette période de transition.
Coup de libération, ok, mais c'est un coup d'État. Quand on abolit les institutions, ça veut dire que la République n'existe plus, on n'est plus en République. On est dans un régime particulier, donc on n'est pas en République. C'est un coup d'État. Pour que les fondamentaux soient mis en place et que chacun retrouve surtout sa liberté, parce que j'estime qu'on n'a pas notre liberté. Regarde l'affaire des syndicalistes qui ont été arrêtés, alors qu'être syndicaliste, c'est un droit. Mais les Gabonais oublient une chose, le Gabon est en ce moment un état de non-droit.
Avec la fin de l'euphorie qui a suivi le renversement d'Ali Bongo Ondimba, les Gabonais sont désormais partagés entre confiance et méfiance vis-à-vis des nouvelles autorités de leur pays. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
L'assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo en début d'année a plus focalisé l'attention des Camerounais en 2023. Mais la justice en est encore aux enquêtes préliminaires, malgré la mise en détention provisoire de quelques présumés, parmi lesquels un influent homme d'affaires et le patron des services de renseignement du Cameroun. Un magazine réalisé par Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé.
Ce qui nous intéresse, actuellement, c'est que on nous dise qui a tué Martinez Zogo.
Le journaliste Zéphérin Koloko a été entendu dans le cadre de cette affaire le 22 janvier prochain. Cela fera un an que la dépouille suppliciée de Martinez Zogo a été retrouvée. La soif de justice est un sentiment qui anime toujours de nombreux Camerounais dans le cadre de cette affaire. Zéphérin Koloko, directeur de publication du journal Avenir.
Dans quelles circonstances ont-ils tué Martinez Zogo? Pourquoi ont-ils tué Martinez Zogo, assassiné de la manière la plus effroyable telle que l'on a vu? Qui sont les commanditaires ou qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo? Voilà ce que la presse camerounaise attend. Cette vérité-là.
Le 1er décembre, une ordonnance de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Amoureux Bedinga et de Maxime Eko-Eko s'est retrouvée sur la toile. Les deux hommes ont été inculpés pour complicité de torture le 4 mars dernier par le juge d'instruction Florent Sicati de la justice militaire. L'ordonnance de mise en liberté provisoire, qui portait la signature du même juge, sera qualifiée plus tard de fake news. Un imbroglio judiciaire selon Victor Onana, président de l'Union des populations du Cameroun.
On rend la justice au nom du peuple et on la rend pleinement. Et quand on a pris une décision, on s'y arrête. Ça ne vaut pas la peine de contester ses propres décisions. Il a rendu un très mauvais service en se reniant dans cette décision-là. À la limite, tu as commis une erreur. Oui, assume l'erreur pleinement, mais ne compromets pas l'institution que tu es censé représenter dans du pays. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la décision qui sera rendue sur Amgou, Elina ou Eko ou les autres, n'a plus aucune crédibilité. Parce que tout le monde comprend que aujourd'hui, d'ailleurs, on avait déjà vu ça lors de l'opération épervée avec Akanabara, qu'on a acquitté, mais qu'on a gardé en prison. Pour lui trouver d'autres chefs d'inculpation qui permettaient de le garder en prison. Ça a complètement décrédibilisé la justice et les opérations qui sont menées.
À la suite de cette affaire, le président Paul Biya a désigné le 13 décembre dernier un nouveau vice-président du tribunal militaire de Yaoundé, cumulativement avec les fonctions de juge d'instruction. Pour certains observateurs, ce décret a valeur de limogeage de celui qui officiait en lieu et place. Crépin Diodo, avocat.
La loi du 12 juin 2017 organise le code de justice militaire et à l'intérieur elle crée également les tribunaux militaires. Dans cette loi précisément, en ce qui concerne les tribunaux militaires, dit que les tribunaux militaires sont composés dans sa composition d'un président et un ou plusieurs vice-présidents, également constitués d'un juge d'instruction et un ou plusieurs juges d'instruction. Alors, lorsqu'on a fini de lire cette loi, cas d'espèce, le tribunal militaire de Yaoundé, jusqu'à présent, jusqu'à hier, ou alors jusqu'à avant-hier, avait en son sein un président et un vice-président. Le président de la République a donc signé ce décret hier, nommant ou alors désignant un vice-président. Ça veut dire qu'il a juste ajouté un autre vice-président. On n'a pas renvoyé le vice-président qui était là.
À ce stade, difficile d'y voir plus clair. Depuis la découverte de la dépouille de Martinez Zogo, trois différents juges d'instruction ont dirigé les enquêtes. Professeur Edouard Bilois, membre de la sous-commission communication du RDPC, le parti au pouvoir.
Le problème est encore beaucoup plus complexe chez nous, parce que comme la justice ne communique pas, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne vous dit pas ce qui se passe. Conséquence, les journalistes sont dans le flou. C'est eux qui font des enquêtes et en fait ce que le grand public sait, c'est ce que les journalistes lui disent. Donc au lieu de critiquer les journalistes, on devrait plutôt... On ne sait pas si le juge Sicati sera dessaisi de l'affaire. Mais tout le monde pense que s'il n'est pas dessaisi de l'affaire, il sera accompagné par un autre juge d'instruction. C'est qu'il y a une collégialité qui est possible.
Martinez Zogo a été assassiné à l'âge de 50 ans. Il animait un célèbre programme appelé Embouteillage sur Amplitude FM, une radio privée de la capitale. Yaoundé Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez la rétrospective 2023.
L'Est de la RDC a encore été secoué par la violence armée en 2023. Tous les candidats aux élections générales du 20 décembre ont promis de combattre l'insécurité. L'offensive du M23 dans le Nord Kivu a poussé plus d'un million de personnes à fuir leurs entités selon l'ONU. De nombreux déplacés de guerre traversent des situations difficiles dans des camps. Au moment où beaucoup d'observateurs congolais pensaient que le rétablissement de la paix était plus urgent que l'organisation des élections. Un magazine réalisé par Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Comme en 2019, les élections de cette année ont exclu certains citoyens vivant des zones de conflit comme ceux résidant dans les territoires des Kwamout, dans la province de Maïndombe, Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord Kivu. Des milliers de déplacés ont déjà passé plus d'une année dans ces camps autour et dans la ville de Goma, un calvaire pour Noël Gezabera, qui passe toutes ces années sans abri.
Lorsqu'il pleut, je reste toujours exposé à la pluie, car je n'ai pas d'abri. Je ne sais même pas aller m'abriter dans les cabanes des amis, vu qu'elles sont très petites pour me contenir tous. Je suis régulièrement mouillée ici, et les bagages gardés dans une salle de classe.
Les salles de classe de l'école primaire Kanyaruchinya servent d'abri à nombreux déplacés, mais en période scolaire, ils sont obligés de quitter. Noël Angezabera pense même que le gouvernement se moque de leur souffrance.
Nous souffrons énormément dans ces camps de déplacés. Lorsque les enfants commencent le cours au matin, nous sommes obligés de passer la journée dehors sans trouver un moyen de préparer même quelque chose à manger pour nos enfants. Je pense qu'il serait mieux qu'on nous ouvre la route pour que nous rentrions vivre avec les rebelles dans nos villages. Ça vaut la peine car le gouvernement ne se soucie pas de notre sort.
Ce dernier trimestre de 2023 a aussi été caractérisé par un regain des tensions entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. De nouvelles vagues de déplacés ont été observées. Jacques Kasereka, qui avait un handicap, avoue que sa fuite a été un véritable parcours des combattants.
Pour arriver jusqu'ici, il m'a fallu marcher sur ma béquille jusqu'à ce que mon épaule était sur le point de lâcher. C'est par chance que j'avais rencontré un bon samaritain qui m'avait pris gratuitement sur sa moto et qui m'avait mené jusqu'ici à Kanyaruchinya. Pendant la fuite, certains de nous étaient morts de la famine en cours de route. D'autres s'étaient vus ravir leurs biens, mais nous autres sommes arrivés par la grâce des dieux.
La situation humanitaire s'est considérablement dégradée ces derniers mois dans les camps des déplacés où de nombreuses organisations humanitaires ont cessé d'intervenir, soit par manque de moyens, soit pour raisons sécuritaires. De nombreuses femmes ont ainsi été exposées à des violences sexuelles, confie Maan Bidonate, déplacée venue de Rougari.
Nous passons les journées à quémander dans la cité auprès de personnes qui ne nous doivent rien. Lorsqu'on nous donne, nous mangeons ce jour-là. Lorsqu'on ne nous donne pas, nous passons mieux comme ça. Pour nous les femmes, nous croisons souvent des hommes méchants qui nous violent. Aujourd'hui, tous nos enfants souffrent de malnutrition et nous-mêmes, nos cheveux commencent à changer de couleur.
La société civile du Nord Kivu pense que le gouvernement, malgré la tenue des élections, devrait faire de la sécurité sa priorité. Innocent Angula, membre de la société civile du territoire de Rutshuru, regrette le départ des forces est-africaines.
Il y avait quand même les droits de l'homme qui étaient respectés. Est-ce qu'après leur départ, les droits de l'homme seront respectés? On doute encore, mais il fallait que les gouvernements prennent aussi des mesures de substitution.
Beaucoup au Nord Kivu espèrent que le président qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années réussira à rétablir la sécurité. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Go.
Vous écoutez VOA Afrique, rétrospective 2023. Passons maintenant au Sénégal. L'année 2023 est marquée par la bataille judiciaire autour de l'éligibilité d'Ousmane Sonko. L'opposant fait autant parler de lui malgré son incarcération depuis plus de 5 mois alors que le pays organise une présidentielle sans le président sortant Macky Sall. Les explications de notre correspondant au Sénégal, Wahani Johnson Sambou.
C'est un feuilleton à rebondissements qui déchaîne toujours les passions au Sénégal. La saga politico-judiciaire d'Ousmane Sonko se poursuit avec la polémique autour de son éligibilité. Elle est entretenue ces dernières semaines par le refus de la Direction générale des élections de remettre les fiches de parrainage au mandataire de l'opposant en prison. La DGE ignore ainsi l'ordonnance d'un juge et la commission électorale demandant la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Un refus problématique pour Mam Gourgom, analyste politique.
Une élection dans notre contexte africain, dans notre contexte sénégalais, c'est d'abord un arbitre. Ici, il s'agit du ministère de l'Intérieur dont dépend la Direction générale des élections. Quand celle-ci donne l'impression d'une structure qui exécute une commande politique, ça peut bien sûr inquiéter. À quelques mois de la présidentielle de 2024, une élection décisive, une élection qui est très importante au Sénégal.
En attendant, le bras de fer entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko se poursuit malgré les 2 victoires judiciaires de l'opposant. Le jugement d'octobre annulant sa radiation des listes électorales et une confirmation il y a quelques jours par le tribunal hors classe de Dakar. Un soulagement pour Maître Saïd Larifou, l'un de ses avocats.
J'ai 2 sentiments, un sentiment de satisfaction et puis un sentiment de soulagement aussi et puis un sentiment de fierté. Comme des millions de Sénégalais, je suis satisfait que le tribunal ait accepté sans difficulté de se prononcer sur le droit et de rejeter le piège qui lui a été tendu, puisqu'il y a un piège qui a été tendu au tribunal, à la justice. C'est ce piège que les politiques sont seuls spécialistes. C'est de transformer le palais de justice en un espace politique.
Mais malgré ce désaveu, les avocats de l'État du Sénégal ne s'avouent pas pour autant vaincus. Tout en ironisant sur le verdict, Maître Elhadj Diouf annonce déjà un autre round.
Moi j'ai envie de rire, car face à l'inintelligence et à la perte de mémoire, on jubile aujourd'hui comme on avait jubilé à Ziguinchor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur défie le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. On va faire un pouvoir en cassation comme on l'avait fait à Ziguinchor.
Il faudra donc patienter pour connaître le sort d'Ousmane Sonko. De sa condamnation pour diffamation d'un ministre au verdict de son procès par contumace pour viol, les déboires politico-judiciaires de l'opposant ont bien secoué le Sénégal cette année. Une affaire purement politique, selon Ousmane Sonko.
Pour ce qui concerne le processus d'élimination politique provisoire du candidat Ousmane Sonko, tout le monde sait que le président Macky Sall, comme à son habitude, a décidé d'instrumentaliser un point de la justice, quelques magistrats, pour obtenir le résultat. Et c'est pourquoi, par rapport aux actes qui sont posés, vous m'avez entendu depuis quelque temps proclamer la campagne de désobéissance civique pour répondre à une situation d'injustice, malheureusement exercée par la justice sur ma personne.
Une justice qui finira par l'arrêter le 28 juillet. Ousmane Sonko est alors inculpé de plusieurs crimes et délits par le procureur Abdoukarim Diop.
Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique, à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol.
Des accusations rejetées en bloc par les avocats de l'opposant qui dénoncent une vingtaine d'États. Pour Mam Gourgom, cette situation n'augure rien de certain pour la présidentielle.
Tous ces actes arrosent la colère, car de plus en plus, l'opinion est convaincue que l'objectif principal du pouvoir est de tout faire pour que l'opposant numéro 1, en l'occurrence Ousmane Sonko, ne participe pas à la présidentielle de 2024. Ça aussi multiplie les incertitudes, donc il y a des perspectives sombres d'ici à la présidentielle de 2024.
Et le suspense autour de la candidature d'Ousmane Sonko alimente davantage cette incertitude. Le scepticisme reste grand quant à sa participation à la présidentielle. car la bataille autour de son éligibilité semble encore loin de son dénouement. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Pour terminer, nous revenons ici aux États-Unis, alors qu'en 2023, le président Joe Biden a tenté de se focaliser sur la rivalité stratégique des États-Unis avec la Chine et sur la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et le Hamas menace d'embraser le Moyen-Orient. La guerre à Gaza met aussi sa politique étrangère au centre de préoccupation de certains électeurs américains, alors que le pays s'apprête à entrer dans une année électorale. Patsy Widakuswara fait le point, le récit est d'Abdourahman Dia.
L'année 2023 se termine dans la violence avec le conflit en Ukraine et à Gaza. Le président Joe Biden évoque l'importance de la politique étrangère américaine pour le monde.
Le leadership américain est ce qui unit le monde. Les alliances américaines assurent notre sécurité. Les valeurs américaines font de nous un partenaire avec lequel d'autres pays souhaitent travailler.
Joe Biden a jusqu'à présent soutenu l'Ukraine, dirigeant une coalition pour aider Kiev dans sa bataille contre l'invasion russe. Mais une rallonge de financement américain a été bloquée par les républicains qui réclament une politique plus ferme à la frontière sud. Concernant la Chine, Biden a réussi à gérer une rivalité intense sans virer au conflit en renforçant les alliances. Robert Daly du Wilson Center.
Nous disposons de 4 bases supplémentaires en Philippines que nous pouvons utiliser. Nous pouvons aider à rapprocher le Japon et la Corée du Sud et nous espérons pouvoir maintenir cela. L'OTAN a désormais une mission dans la région Indo-Pacifique. Elle prend forme, mais elle est clairement là. Grâce à notre alliance avec la Grande-Bretagne et l'Australie, à l'engagement du Japon à augmenter son budget militaire, nous avons très bien réussi.
Les États-Unis ont fait preuve de leadership dans de nombreuses régions, selon John Kirby du Conseil de sécurité nationale.
Et je m'attendrai à ce qu'au cours de la dernière année de ce mandat, nous mettions le pied sur l'accélérateur et poussions tous ces changements encore plus loin.
Mais le soutien américain à son allié le plus proche au Moyen-Orient ne fait pas l'unanimité depuis que le Hamas a lancé des attaques meurtrières en octobre en territoire israélien. Les frappes de représailles d'Israël contre le Hamas, groupe désigné terroriste par les États-Unis, ont causé d'énormes pertes civiles dans la bande de Gaza, déclenchant l'indignation dans le monde arabe et menaçant la stabilité de la région, faisant craindre une entrée dans le conflit de groupes pro-iraniens comme le Hezbollah. La situation à Gaza a quelque peu brouillé l'objectif de Washington, qui veut se tourner de plus en plus vers l'Asie et de moins en moins sur le Moyen-Orient. Emma Ashford, analyste au Stimson Center.
L'opinion publique est franchement fatiguée d'une politique étrangère militante. Et donc je pense que ce que nous constatons, c'est que même si les États-Unis maintiennent leur soutien à tous ces différents agendas pour le moment, cela va devenir de plus en plus difficile à l'avenir. Et les décideurs politiques vont devoir commencer à faire des choix dans un an ou deux.
Même si les électeurs ne font pas généralement leur choix en fonction de la politique étrangère, le soutien de Biden à l'Ukraine et à Israël, ainsi que la menace d'être entraîné dans une autre guerre, inquiète beaucoup d'Américains.
Ouais, notre vie était tellement meilleure avec Trump.
D'autant plus que son adversaire probable, l'ancien président Donald Trump, affirme que sa politique étrangère, basée sur son slogan « l'Amérique d'abord », a permis au pays de rester sûr et prospère pendant qu'il était au pouvoir.
Nous arrivons au terme de cette rétrospective 2023 dans quelques pays. Au nom des toutes équipes de la VOA Afrique, je vous remercie de votre fidélité et nous vous souhaitons une bonne année 2024. À très bientôt sur VOA Afrique. C'était Lionel Gaïma à la présentation.